Laurence Stern, Le voyage sentimental, troisième partie, chapitre 18, La manière de voir. Elle ne m'eut pas sitôt quitté que je commençais à m'ennuyer. Je sentis que les moments étaient plus longs, et je n'ai peut-être jamais fait un marché de 12 guinées aussi promptement dans toute ma vie que celui de ma chaise. Je donnai ordre qu'on m'amenât des chevaux de poste, et je dirigeai mes pas vers l'hôtellerie. « Ciel, dis-je, en entendant 5 heures sonner, et en faisant réflexion qu'il y avait que 2 heures que j'étais à Calais, quel volume d'aventure cet instant si court ne pourrait-il pas produire? Quel sujet pour un homme qui s'intéresse à tout, et ne laisse rien échapper de ce que le temps et le hasard lui présentent continuellement. Je ne sais pas si cet ouvrage aura jamais quelque utilité. Peut-être qu'un autre réussira mieux, mais qu'importe. Montreuil. Mon porte-manteau était tombé une fois de derrière la chaise. J'avais été obligé de descendre 2 fois par la pluie, et je m'étais mis une autre fois dans la boue jusqu'au genou pour aider le postillon à l'attacher. Je ne savais ce qui causait un dérangement si fréquent. J'arrive à Montreuil, et l'hôte me demande si je n'ai pas besoin d'un domestique. À ce mot, je devine que c'est le défaut d'un domestique qui est cause que mon porte-manteau se dérange si souvent. « Un domestique, dis-je. Oui, j'en ai bien besoin. Il m'en faut un, monsieur, dit l'hôte. C'est qu'il y a ici, près, un jeune homme qui serait charmé d'avoir l'honneur de servir un Anglais. Et pourquoi plutôt un Anglais qu'un autre ? Ils sont aussi généreux, répond l'hôte. Bon, dis-je, en moi-même, je gage que ceci me coûtera 20 fois de plus ce soir. C'est qu'ils ont de quoi faire les généreux, ajouta-t-il. Courage, me disais-je, autre 20 sols à noter. Pas plus tard qu'hier au soir, continua-t-il, un milord anglais offrit un écu à la fille. Tant pis pour mademoiselle Jeanneton, dis-je. Mademoiselle Jeanneton était fille de l'hôte, et l'hôte, s'imaginant que je n'entendais pas bien le français, se hasarda à m'en donner une leçon. « Ce n'est pas tant pis que vous auriez dû dire, monsieur, c'est tant mieux. C'est toujours tant mieux quand il y a quelque chose à gagner. Tant pis quand il n'y a rien. Oh, cela revient au même, lui dis-je. Pardonnez-moi, monsieur, dit l'hôte, cela est bien différent. » Ces deux expressions, tant pis et tant mieux, sont les deux grands pivots de presque toutes les conversations françaises, et il est bon d'avertir qu'un étranger qui va à Paris ferait bien de s'instruire, avant d'arriver, de toute l'étendue de leur usage. Un jeune marquis plein de vivacité demanda à M. Hume, à la table de notre ambassadeur, s'il était M. Hume, le poète. « Non, dit M. Hume, tranquillement. « Tant pis, répond le marquis. « C'est monsieur le Hume, l'historien, dit un autre. « Ah, tant mieux, dit le marquis. Et monsieur Hume, dont le cœur, comme on sait, est excellent, remercia le marquis pour son tant pis et pour son tant mieux. L'hôte, après sa leçon, appela la fleur. C'est ainsi que se nommait le jeune homme qu'il me proposait. Je ne puis rien dire de ses talents. Monsieur en jugera mieux que moi. Mais pour sa probité, j'en réponds. Je ne sais quel ton il donna à ce qu'il disait, mais il me fit faire attention à ce que j'allais faire, et la fleur qui attendait dehors avec cette impatience qu'ont tous les enfants de la nature en certaines occasions, fit son entrée. Chapitre 20. Il faut savoir s'accommoder de tout. Je suis disposé à penser favorablement de tout le monde au premier abord, et surtout d'un pauvre diable qui vient offrir ses services à un aussi pauvre diable que moi. Mais ce penchant me donne quelquefois de la défiance. Il m'autorise, du moins, à en avoir. J'en prends plus ou moins, selon l'humeur qu'il me domine, et le cas dont il s'agit. Je puis aussi ajouter, selon le sexe à qui je dois avoir affaire. Dès que la fleur entra dans la chambre, son air ouvert et naturel triompha de la défiance. Je me décidai sur le champ en sa faveur, et je l'arrêtai sans hésiter. La prudence me chuchota que je ne savais pas ce qu'il savait faire. Eh bien, je découvrirai ses talents à mesure que j'en aurai besoin. D'ailleurs, un Français est propre à tout. Cependant, la curiosité m'aiguillonna, et quelle fut ma surprise! Le pauvre Lafleur ne savait que battre du tambour et jouer quelques marches sur le fifre. Je sentis que ma faiblesse n'avait jamais été insultée plus vivement que dans cette occasion par ma sagesse. Malgré cela, je résolus de me contenter des talents de Lafleur. Il avait commencé son entrée dans le monde par satisfaire le noble désir qui enflamme presque tous ses compatriotes. Il avait servi le roi plusieurs années, mais s'étant aperçu que l'honneur d'être tambour n'ouvrait pas les portes de la récompense, ni la carrière de la gloire, il s'était retiré sur ses terres, où il vivait comme il plaisait à Dieu, c'est-à-dire aux dépens de l'air. Ainsi, me dit la sagesse, vous avez pris un tambour pour vous servir pendant ce voyage. Et pourquoi ne l'aurais-je pas pris, dis-je? N'ai-je pas mieux fait que la moitié de notre noblesse qui voyage avec des lanneaux d'or de laquais qu'elle paie et qui lui laisse à payer de plus le flûteur, le harpiniste, la clarinette, le diable et tout son train? Lorsqu'on peut se débarrasser d'un mauvais marché par une équivoque, je trouve qu'on n'est pas à plaindre. Mais Lafleur, vous savez sans doute faire quelque chose de plus. Oh oui, il pouvait faire des guêtres et jouer un peu de violon. Bravo, dit la sagesse. Moi, lui dis-je, je joue de la basse. Ainsi, nous pourrons concerter. Mais vous savez raser? Vous accommoderez un peu une perruque? J'ai les meilleures dispositions. C'en est assez pour le ciel, lui dis-je en l'interrompant, et cela doit me suffire. On servit le souper. Je me mis à table. J'avais d'un côté de ma chaise un épagneul anglais, un domestique français de l'autre. J'étais aussi gai qu'on peut l'être. J'étais content de mon empire. Et si les monarques faisaient borner leurs désirs, ils seraient aussi heureux que je l'étais. Chapitre 21. Discours préliminaire. Lafleur ne m'a point quitté pendant tous mes voyages, et il sera souvent question de lui. Il est bien juste que j'instruise un peu mes lecteurs sur son compte, et pourquoi même ne parviendrai-je pas à les intéresser en sa faveur. Je n'ai jamais eu de raison de me repentir d'avoir suivi les impulsions qui m'avaient déterminé à le prendre. Jamais philosophe n'a eu de domestique plus fidèle, plus attaché, plus véridique. Ses talents de battre du tambour et de faire des guêtres, bons en eux-mêmes, ne m'étaient pas à la vérité d'une grande utilité, mais j'en étais bien récompensé par la gaieté perpétuelle de son humeur. Elle suppléait à tous les talents qu'il n'avait pas. Elle aurait même, dans mon esprit, effacé ses défauts. Sa figure m'était une ressource. J'y trouvais toujours de l'encouragement dans mes embarras. Une espèce de fil qui me faisait sortir des difficultés que je rencontrais. J'allais dire aussi des siennes, mais il semblait que rien n'était moins difficile pour lui. La faim, la soif, le froid, le chaud, les veilles, la fatigue ne faisaient pas la moindre impression sur sa physionomie. Il était éternellement le même. Je ne sais pas si je suis philosophe. Satan, qui se mêle de tout, veut me le persuader. Mais si je le suis, je l'avoue, je me suis trouvé bien des fois humilié en réfléchissant aux obligations que j'avais au caractère philosophique de ce pauvre garçon. Combien de fois son exemple ne m'a-t-il pas excité à m'appliquer à une philosophie plus sublime? Avec tout cela, Lafleur était un peu fat. Mais c'était plutôt un mouvement de la nature que l'effet de l'art. Il n'eut pas demeuré 3 jours à Paris que cette fatuité disparut. Je voulais apprendre tout cela à mes lecteurs. La chose valait bien un chapitre. Chapitre 22. Ce qui rend vertueux. J'installai, le lendemain matin, Lafleur dans sa charge. Je fis devant lui l'inventaire de mes 10 chemises, et de ma culotte de soie noire, et je lui donnai la clef de mon porte-manteau. Je lui dis de le bien attacher derrière la chaise, de faire atteler les chevaux, et d'avertir l'hôte de m'apporter son compte. « Ce garçon est heureux, » dit l'hôte, en adressant la parole à 5 ou 6 filles qui entouraient la fleur, et lui souhaitait affectueusement un bon voyage. « Voilà sa fortune faite. » J'observais cette petite scène. La fleur baisait les mains des filles, ses yeux se mouillèrent. Il les essuya 3 fois, et 3 fois il promit d'apporter des pardons de Rome à toute la bande. « Toute la ville l'aime, » me dit l'hôte. « On le trouvera de manque à tous les coins de Montreuil. » Il n'a qu'un seul défaut, c'est d'être toujours amoureux. Bon, dis-je en moi-même, cela m'évitera la peine de mettre chaque nuit ma culotte sous mon oreiller. Et je faisais moins en disant cela l'éloge de la fleur que le mien. J'ai toute ma vie été amoureux d'une princesse ou de quelque autre, et je compte bien l'être jusqu'à ma mort. Je suis très persuadé que si j'étais destiné à faire une action basse, c'est qu'auparavant j'aurais cessé d'aimer, et que je ne la ferais que dans l'intervalle d'une passion à l'autre. J'ai éprouvé quelquefois de ces interrègnes, et je me suis toujours aperçu que mon cœur était fermé pendant ce temps. Il était si endurci qu'il fallait que je fisse un effort sur moi pour soulager un misérable, en lui donnant seulement 10 sols. Je me hâtais alors de sortir de cet état d'indifférence. Le moment où je me retrouvais ranimé par la tendre passion était le moment où je redevenais généreux et compatissant. J'aurais tout fait, ou pour obliger mes frères, ou par complaisance, pour la compagnie dans laquelle je me trouvais. Je n'y mettais qu'une condition, c'est qu'il n'y aurait point eu de crime. Mais que fais-je en disant tout ceci? Qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas mon éloge, c'est celui de la passion. Chapitre 23. Fragment. De toutes les villes de la Thrace, celle d'Abder était la plus abandonnée à la débauche. Elle était plongée dans un débordement de mœurs effroyables. C'est en vain que Démocrite, qui y faisait son séjour, employait tous les efforts de l'ironie et de la risée pour l'en tirer. Il n'y pouvait réussir. Le poison, les conspirations, le meurtre, le viol, les libelles diffamatoires, les pasquinades, les séditions, y régnaient. On osait sortir le jour. C'était encore pis la nuit. Ces horreurs étaient à ce point lorsqu'on représenta l'Andromède d'Euripide à Abder. Tous les spectateurs en furent charmés, mais de tous les endroits dont ils furent enchantés, rien ne frappa plus leur imagination que les tendres sensations de la nature, qu'Euripide avait peintes dans le discours pathétique de Persée. Ô Cupidon, roi des dieux et des hommes! Tout le monde le lendemain parlait en vers iambiques. Ce discours de Persée faisait le sujet de toutes les conversations. On ne faisait que répéter dans chaque maison, dans chaque rue, « Ô Cupidon, roi des dieux et des hommes !» Tout retentissait du nom de Cupidon. Le nom de ce dieu mis en refrain flattait plus que la plus douce mélodie. On entendait de tous côtés que Cupidon, Cupidon, roi des dieux et des hommes. Le même feu saisit tout le monde, et toute la ville, comme si les habitants n'avaient eu qu'un même cœur, se livra à l'amour. Les apothicaires d'Abder cessèrent de vendre de l'hellebore. Les faiseurs d'armes ne vendirent plus d'instruments de mort. L'amitié et la vertu régnèrent partout. Les ennemis les plus irréconciliables s'entredonnèrent publiquement le baiser de paix. Le siècle d'or revint et répandit ses bienfaits sur Abder. Les Abderitains jouaient des airs tendres sur le chalumeau. Le beau sexe quittait les robes de pourpre et s'asseyait modestement sur le gazon pour écouter ces doux concerts. Il n'y avait, dit le fragment, que la puissance d'un dieu, dont l'empire s'étend du ciel à la terre, et jusque dans le fond des eaux, qui put opérer ce prodige. Chapitre 24. Plaisir rarement goûté. Quand tout est prêt, et qu'on a discuté chaque article de la dépense, il y a encore, à moins que le mauvais traitement n'ait remué votre bile, en aigrissant votre humeur, une autre affaire à ajuster à la porte avant de monter en chaise. C'est avec les fils et les filles de la pauvreté que vous avez affaire. Ils vous entourent, et que personne ne les rebute. Ce que souffrent ces malheureux est déjà trop cruel pour y ajouter de la dureté. Il vaut mieux avoir quelques monnaies à leur distribuer. Et c'est un conseil que je donne à tous les voyageurs. Ils n'auraient pas besoin d'écrire les motifs de leur générosité. Ils seront enregistrés ailleurs. Personne ne donne moins que moi, parce qu'il y a peu de mes connaissances qui aient moins à donner. Mais c'était le premier acte de cette nature que je faisais en France. Je le fis avec plus d'attention. Hélas, disais-je, en les montrant au bout de mes doigts, je n'ai que 8 sols, et je voyais 8 pauvres femmes et autant d'hommes pour les recevoir. Un de ces hommes sans chemise et dont l'habit tombait en lambeaux se trouvait au milieu des femmes. Il s'en retira aussitôt en faisant la révérence. Si tout le parterre criait d'une voix « Place aux dames !», il ne montrerait pas plus de déférence pour le beau sexe que ce pauvre homme. « Juste ciel !» m'écriai-je en moi-même. « Par quelle sage raison avez-vous ordonné que la mendicité et la politesse seraient réunies dans ce pays, quand elles sont si opposées dans les autres régions ?» Je lui offris un de mes 8 sols, uniquement parce qu'il avait été honnête. Un pauvre petit homme, plein de vivacité, et qui était vis-à-vis de moi, après avoir mis sous son bras un fragment de chapeau, tira sa tabatière de sa poche, et offrit généreusement une prise de tabac à toute l'assemblée. C'était un don de conséquence, et chacun le refusa en faisant une inclination. Il les sollicita avec un air de franchise. « Prenez, prenez, dit-il en regardant d'un autre côté. » Et à la fin, ils en prirent. « Ce serait dommage, me dis-je, que ta boîte se vida. » J'y mis 2 sols et j'y pris moi-même une prise de tabac pour lui rendre le don plus agréable. Il sentit le poids de la seconde obligation plus que celui de la première. C'était lui faire honneur. L'autre, au contraire, était humiliante. Il me salua jusqu'à terre. « Tenez, dis-je à un vieux soldat qui n'avait qu'une main et semblait avoir vieilli dans le service. Voilà 2 sols pour vous. »« Vive le roi !» s'écria le vieux soldat. Il ne me restait plus que 3 sols. J'en donnais 1 pour l'amour de Dieu. C'est à ce titre qu'on me le demandait. La pauvre femme avait la cuisse disloquée. On ne peut pas soupçonner que ce fût pour un autre motif. « Mon cher et très charitable monsieur, on ne peut pas renvoyer celui-là, me disais-je, mylord anglais. Le seul son de ce mot valait l'argent, et je le payais du dernier de mes sols. Mais dans l'empressement où j'avais été de les distribuer, j'avais oublié un pauvre honteux qui n'avait personne pour faire la quête, et qui peut-être aurait péri avant d'oser demander lui-même. Il était près de la chaise, mais hors du cercle, il essuyait une larme qui découlait le long de son visage, et il avait l'air d'avoir vu de plus beaux jours. « Bon Dieu !» me disais-je, « et je n'ai pas un sol pour lui donner. » « Vous en avez 1000 !» s'écrièrent à la fois toutes les puissances de la nature qui étaient en mouvement chez moi. Je m'approchais de lui et je lui donnais. Il n'importe quoi. Je rougirais à présent de me souvenir combien. J'étais honteux alors de penser combien peu. Si le lecteur devine ma disposition, il peut juger, entre ces 2 points donnés à un écu ou 2 prêts, quelle fut la somme précise. Je ne pouvais rien donner aux autres. « Que Dieu vous bénisse, leur dis-je, et le bon Dieu vous bénisse vous-même, s'écrièrent le vieux soldat, le petit homme, et le pauvre honteux ne pouvait rien dire. Il se retira dans un coin pour essuyer ses yeux en se détournant. Je crus qu'il me remerciait plus que tous ceux qui parlaient. Chapitre 25. Le bidet. Ces petites affaires ne furent pas si tôt ajustées que je montai dans ma chaise, très content de tout ce que j'avais fait à Montreuil. La fleur, avec ses grosses bottes, sauta sur un bidet. Il s'y tenait aussi droit et aussi heureux qu'un prince. Mais qu'est-ce que le bonheur et les grandeurs dans cette scène factice de la vie? Rien n'y est stable ni permanent. Nous n'avions pas encore fait une lieue qu'un âne mort arrêta tout court la fleur dans sa course. Le bidet ne voulut pas passer. La contestation entre la fleur et lui s'échauffa, et le pauvre garçon fut désarçonné et jeté par terre. Il souffrit sa chute avec toute la patience du Français qui aurait été le meilleur chrétien, et ne dit pas autre chose que « diable ». Il remonta à cheval sur le champ et battit le bidet comme il aurait pu battre son tambour. Le bidet volait d'un côté du chemin à l'autre, tantôt par-ci, tantôt par-là, mais il ne voulait pas approcher de l'âne mort. La fleur, pour le corriger, insistait, et le bidet entêté le jeta encore par terre. « Qu'a votre bidet ?» lui dis-je, la fleur. « Monsieur, c'est le cheval le plus opiniâtre du monde. « Eh bien, s'il est obstiné, repris-je, il faut le laisser aller à sa fantaisie. » La fleur qui était remontée descendit et, dans l'idée qu'il ferait aller le bidet en avant, il lui donna un grand coup de fouet. Mais le bidet s'en retourna en galopant à Montreuil. « Peste !» dit la fleur. Je crois qu'il est bon de remarquer ici que, quoique la fleur, dans ses accidents, ne se fût servie que de deux termes d'exclamation, il y en a cependant trois dans la langue française. Ils répondent à ce que les grammairiens appellent le positif, le comparatif et le superlatif. Et l'on se sert des uns et des autres dans tous les accidents imprévus de la vie. Diable est le premier degré. C'est le degré positif. Il est d'usage dans les émotions ordinaires de l'esprit, et lorsque de petites choses, contraires à notre attente, arrivent, qu'on joue par exemple au passe-dix, et que l'on ne rapporte deux fois de suite que double as, ou comme la fleur que l'on soit désarçonné et jeté par terre, ces petites circonstances et tant d'autres s'expriment par diable. Et c'est pour cette raison que le cocuage, qui, en certains pays de l'Europe, exige plus d'énergie, ne se plaint en France que par cette expression. Mais dans une aventure où il entre quelque chose de dépitant, comme lorsque le bidet s'enfuit en laissant la fleur étendue par terre dans ses grosses bottes, alors vient le second degré. On se sert de peste pour le troisième. Oh, c'est ici que mon cœur se gonfle de compassion. Quand je songe à ce qu'un peuple aussi poli doit avoir souffert pour qu'il soit forcé à s'en servir. Puissance qui délie nos langues et les rend éloquentes dans la douleur. Accorde-moi des termes décents pour exprimer ce superlatif, et quel que soit mon fort, je céderai à la nature. Mais il n'y a point de ces termes décents dans la langue française. Je pris mon parti, je formai la résolution de prendre les accidents qui m'arriveraient avec patience, et sans faire d'exclamation. La fleur n'avait pas fait cette convention avec lui-même. Il suivit le bidet des yeux tant qu'il le put voir, et l'on peut s'imaginer, si l'on veut, dès qu'il ne le vit plus, de quelle expression il fit usage pour conclure la scène. Il n'y avait guère de moyen, avec des bottes fortes aux jambes, de rattraper un cheval effarouché. Je ne voyais qu'une alternative, c'était de faire monter la fleur derrière la chaise, ou de l'y faire entrer. Il vint s'asseoir à côté de moi, et dans une demi-heure nous arrivâmes à la poste de Nampon. Chapitre 26. L'âne mort. Voici, dit-il en tirant de son bissac, le reste d'une croûte de pain. Voici ce que tu aurais partagé avec moi si tu avais vécu. Je croyais que cet homme apostrophait son enfant. Mais c'était à son âne qu'il adressait la parole, et c'était le même âne que nous avions vu en chemin, et qui avait été si fatal à la fleur. Il paraissait le regretter si vivement qu'il me fit souvenir des plaintes que Chanchot-Pansa avait faites dans une occasion semblable. Mais cet homme se plaignait avec des touches plus conformes à la nature. Il était assis sur un banc de pierre à la porte. Le panneau et la bride de l'âne étaient à côté de lui. Il les levait de temps en temps et les laissait ensuite tomber. Puis les regardait fréquemment, levant la tête. Il reprit ensuite sa croûte de pain comme s'il allait la manger. Mais après l'avoir tenue quelque temps à la main, il la posa sur le mort de la bride en regardant avec des yeux de désir l'arrangement qu'il venait de faire, et il soupira. La simplicité de sa douleur assembla une foule de monde autour de lui, et la fleur s'y mêla pendant qu'on attelait les chevaux. Moi, j'étais resté dans la chaise, et je voyais et j'entendais par-dessus la tête des autres. Il disait qu'il venait d'Espagne, où il était allé du fond de la Franconie, et qu'il s'en retournait chez lui. Chacun était curieux de savoir ce qui avait pu engager ce pauvre vieillard à entreprendre un si long voyage. « Hélas, dit-il, le ciel m'avait donné trois fils. C'étaient les plus beaux garçons de toute l'Allemagne. La petite Vérole m'enleva les deux aînés. Le plus jeune était frappé de la même maladie. Je craignis aussi de le perdre. Et je fis vœu, s'il en revenait, d'aller par reconnaissance en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. » Là, il s'arrêta pour payer un tribut à la nature, et pleura amèrement. Il continua. « Le ciel, dit-il, me fit la faveur d'accepter la condition, et je partis de mon hameau avec le pauvre animal que j'ai perdu. Il a participé à toutes les fatigues de mon voyage. Il a mangé le même pain que moi pendant toute la route. Enfin, il a été mon compagnon et mon ami. » Chacun prenait part à la douleur de ce pauvre homme. La fleur lui offrit de l'argent. Il dit qu'il n'en avait pas besoin. « Ce n'est pas la valeur de l'âne que je regrette, c'est sa perte. » J'étais assuré qu'il m'aimait. Il leur raconta l'histoire d'un malheur qui leur était arrivé en passant les Pyrénées. Ils s'étaient perdus et avaient été séparés 3 jours l'un de l'autre. Pendant ce temps, l'âne l'avait cherché autant qu'il avait cherché l'âne. À peine purent-ils manger l'un et l'autre qu'ils ne se fussent retrouvés. « Vous avez au moins une consolation, lui dis-je, dans votre perte. C'est que je suis persuadé que vous lui avez été un tendre maître. » « Hélas, dit-il, je le croyais aussi pendant que le pauvre animal vivait. Mais à présent qu'il est mort, je crains que la fatigue de me porter ne l'ait accablé, et que je ne sois responsable d'avoir abrégé sa vie. Quelle honte pour les hommes, me dis-je, en moi-même. Se croit-il indigne de s'entraimer au moins autant que ce pauvre homme aimait son âne ?» Chapitre 27. Le postillon. Cette histoire m'affecta. Le postillon n'y prit pas garde et il m'entraîna sur le pavé au grand galop. Le voyageur qui brûle de soif dans les déserts sablonneux de l'Arabie n'aspire pas plus vivement au bonheur de trouver une source que mon âme aspirait après des mouvements tranquilles. J'aurais souhaité que le postillon eût parti moins vite. Mais au moment que le bon pèlerin achevait son histoire, il donna de si grands coups de fouet à ses chevaux qu'ils partirent comme si le dieu qui poussait ceux d'Hippolyte eût été à leur trousse. « Pour l'amour de Dieu, lui criai-je, allez plus doucement. » Mais plus je criais, plus il excitait ses chevaux. « Que le diable t'emporte donc, lui dis-je. Vous verrez qu'il continuera d'aller vite jusqu'à ce qu'il me mette en colère. Ensuite, il ira doucement pour me faire enrager. » Il n'y manqua pas. Il arriva à une hauteur et fut obligé d'aller pas à pas. Je m'étais fâché contre lui. Je m'étais fâché ensuite contre moi-même pour m'être mis en colère. Un bon galop, dans ce moment, m'aurait fait du bien. Mais, allons un peu plus vite, mon bon garçon, lui dis-je. Je voulais me rappeler l'histoire du pauvre Allemand et de son âne. Mais j'en avais perdu le fil. Et il me fut aussi impossible de le retrouver qu'au postillon d'aller le trot. Eh bien, que tout aille à l'aventure. Je me sens disposé à faire de mon mieux, et tout va de travers. La nature dans ses trésors a toujours des lénitifs pour adoucir nos maux. Je m'endormis, et ne me réveillai qu'au mot d'Amien qui frappasse mon oreille. « Oh !» dis-je en me frottant les yeux. C'est ici que ma belle dame doit venir. Chapitre 28. Résolution. J'eus à peine prononcé ces mots que le comte de L et sa sœur passèrent dans leur chaise de poste. Elle me fit un salut de connaissance, mais avec un air qui semblait signifier qu'elle avait quelque chose à me dire. Je n'avais effectivement pas encore achevé de souper, que le domestique de son frère m'apporta un billet de sa part. Elle me priait, le premier matin que je n'aurais rien à faire à Paris, de remettre la lettre qu'elle m'envoyait à madame de R. Elle ajoutait qu'elle aurait bien voulu me raconter son histoire, et qu'elle était bien fâchée de n'avoir pu le faire. Mais que si jamais je passais par Bruxelles, et que je n'eusse pas oublié le nom de madame L., elle aurait cette satisfaction. « Ah, j'irai vous voir, charmante femme, dis-je en moi-même. Rien ne me sera plus facile. Je n'aurai qu'à, en revenant d'Italie, traverser l'Allemagne, la Hollande. Et que m'en coûtera-t-il de plus d'aller en Brabant ? À peine y a-t-il dit poste. Mais il y en aurait mille, je les franchirai toutes. Quelle délice, pour prix de tous mes voyages, de participer aux incidents d'une triste histoire que la beauté, qui en est le sujet, raconte elle-même. Quelle félicité de l'avoir pleuré. C'en serait une plus grande encore de tarir la source de ses larmes. Mais si je ne parviens pas à la dessécher, n'est-ce pas toujours une sensation exquise d'essuyer les joues mouillées d'une belle femme, assise à ses côtés pendant toute la nuit et dans le silence? Il n'y avait certainement point de mal dans cette pensée. J'en fis cependant un reproche amer et dur à mon cœur. J'avais toujours joui du bonheur d'aimer quelque belle. Ma dernière flamme éteinte dans un accès de jalouse s'était rallumée depuis 3 mois aux beaux yeux de Lisette, et je lui avais juré qu'elle durerait pendant tous mes voyages. Et pourquoi dissimuler la chose? Je lui avais juré une fidélité éternelle, elle avait des droits sur tout mon cœur. Partager mes affections, c'était diminuer ses droits. Les exposer, c'était les risquer. Et qui pouvait m'assurer qu'il n'y aurait point de perte? Et alors, Yorick, qu'aurez-vous à répondre aux plaintes d'un cœur si rempli de confiance, si bon, si doux? N'est-il pas irréprochable? Non, non, dis-je en m'interrompant moi-même, je n'irai pas à Bruxelles. Mais mon imagination, cependant, continue à se promener. Enchanteresse! Ah, cesse de m'offrir tes illusions. Elles sont heureusement dissipées. Je ne vois plus que ma Lisette. Je me rappelle ses regards au dernier moment de notre séparation, dans ce moment où l'âme, à force de sentir, ne nous permettait pas d'exprimer notre adieu par le mot même. Et n'est-ce pas là ton portrait, ma chère Lisette? N'est-ce pas toi qui me l'as attaché au col avec ce ruban noir? Je rougis en le fixant. Je voulus le baiser, et je n'osais en approcher mes lèvres. Cette tendre fleur doit-elle se flétrir jusque dans la racine? Et qui en serait cause? N'est-ce pas moi, au contraire, qui ai promis que mon sein serait mon abri? Source éternelle de félicité, m'écriai-je en tombant à genoux, soyez témoin avec tous les esprits célestes que je n'irai point à Bruxelles, à moins qu'il ne fallût passer par là pour gagner le ciel, et que Lisette n'y vint avec moi. Le cœur dans des transports de cette nature dit toujours trop, malgré le jugement.